Il est midi 21 sur Fréquence Mistral. Vous écoutez donc le magazine du midi dédié aux glaciers aujourd'hui à l'occasion de la journée, de l'année pardon, internationale de la préservation des glaciers. Et donc une émission en particulier avec le Parc des Écrins. Et je vous propose de commencer car nous avons été rejoints par téléphone par Pierrick Navizet, chef du service accueil communication au Parc des Écrins. Bonjour Pierrick Navizet.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous nous entendez bien ?
Très bien.
Parfait, merci d'être parmi nous. Donc, vous êtes parmi nous par téléphone, vous êtes à Gap, c'est cela ?
Oui, oui.
Et donc aujourd'hui ensemble, on va parler des activités que vous avez mises en place avec le Parc des Écrins autour, à l'occasion de cette année internationale de la préservation des glaciers. Mais pour commencer, le Parc s'est mobilisé sur cette question. Quel rôle joue le Parc national des Écrins sur la thématique des glaciers ?
Alors, le Parc national des Écrins, il a déjà une position géographique particulière hein, puisqu'on est dans les Alpes du Sud, c'est un massif glaciaire, le plus grand des Alpes d'ailleurs, et donc on a une responsabilité forte en matière de protection des glaciers tout simplement et des milieux périglaciaires. On a aussi un rôle important en matière de connaissances, puisqu'on a une activité scientifique qui est assez développée, et donc on documente l'évolution des glaciers à travers leur suivi, et puis on travaille aussi sur l'étude des nouveaux écosystèmes qui se forment suite au retrait des glaciers, puisque la biodiversité apparaît parfois dans certains lieux suite au retrait glaciaire. Et un rôle important que mène le Parc national des Écrins, c'est aussi le volet éducation des publics, puisqu'on a une mission d'information et de sensibilisation qui est importante, et ça nous permet de sensibiliser le grand public au rôle que jouent les glaciers en matière de châteaux d'eau, de réservoirs d'eau, d'évolution concrète du changement climatique sur le territoire, et puis d'alerter les acteurs publics, associatifs, les écoliers, les habitants sur ce qui se passe à l'échelle des écrins.
Parce que vous êtes vraiment au cœur entre plusieurs acteurs finalement autour de ces glaciers. Et d'ailleurs, vous proposez parmi tous vos événements des activités pour plusieurs publics, puisque vous avez des événements à la fois pour les professionnels de la montagne, pour avec des scientifiques aussi, mais aussi pour le grand public. Alors, je vous propose peut-être de présenter déjà ce que vous proposez pour les professionnels de la montagne.
Oui, alors on propose au mois de septembre une formation qui aura lieu sur une journée. Elle va s'adresser aux accompagnateurs en moyenne montagne et aux professionnels qui bénéficient de la marque Esprit Parc National. L'idée, c'est de faire intervenir donc notre chargé de mission glacier Julien Charron avec un glaciologue et de donc d'évoquer la connaissance actuelle sur
l'évolution des glaciers. Que nous recevrons juste après vous. Pardon, je vous coupe, mais voilà, qui viendra parler après. D'accord.
Et donc, on aura une matinée, on va dire, consacrée à quelques informations assez théoriques. Chiffrer et essayer de vulgariser quelques résultats d'études scientifiques. Et puis l'après-midi, donc sur le site du Sentier des Crevasses, hein, aux environs du col du Lautaret, on proposera une lecture de paysage grandeur nature en profitant de tous les glaciers du massif de la Meije. Donc ça, c'est un premier sujet. Ensuite, on a un colloque scientifique que le Parc national organise du 2 au 4 décembre prochain au Bourdoisan, en Isère, et donc là on va réunir la communauté scientifique et technique qui travaille avec nous sur différents suivis de glaciers, les glaciers rocheux, les glaciers blancs, et puis aussi les écosystèmes des marges glaciaires. Et là l'idée, c'est que les scientifiques puissent nous faire une communication sur l'état de leurs travaux, les perspectives, et puis puissent aussi échanger entre eux sur ce qu'ils peuvent s'apporter mutuellement. Là on aura 8 présentations qui seront proposées sur les 3 jours. Donc c'est le temps réservé, on va dire, aux professionnels. Et puis on va quand même proposer le soir notamment une conférence pour le grand public, puisqu'on profitera de la présence de nos partenaires scientifiques. Et on proposera aussi une visite de la nouvelle maison de Loisan du Parc national des Écrins, qui présente une scénographie qui évoque les écosystèmes de haute montagne et le sujet des glaciers. Et puis on a aussi un public, alors qui n'est pas un public de professionnels, c'est le public des scolaires. Puisqu'en fait, on a impliqué avec 4 enseignants d'écoles du territoire, notamment de Saint-Firmin, Bessagne et Les Vigneaux, des classes et des écoliers qui ont en fait un partenariat avec des gardes du parc qui viennent leur parler des glaciers et du changement climatique au sein des classes. Donc ça se déroule tout au long de l'année jusqu'à la fin de cette année scolaire, jusqu'à début juillet 2025.
D'accord. Et je reviens rapidement quand même sur le premier événement dont vous parliez à destination donc des professionnels marqués par Esprit Parc National. Qui sont-ils? Quelle est cette marque et qui en fait partie?
Alors, c'est une marque qui vise à reconnaître l'engagement de professionnels en matière de bonnes pratiques pour contribuer à la préservation de la biodiversité et des patrimoines. Elle est délivrée par le Parc National et elle concerne alors d'abord les agriculteurs, les producteurs laitiers, de viande, et les apiculteurs. Et aussi, elle implique la communauté du tourisme, donc avec des accompagnateurs en montagne, quelques guides haute montagne, des hébergeurs, donc des gérants de gîtes d'étape, des gardiens de refuge et quelques sites de visite. Voilà, donc... Ces professionnels, ils ont un engagement particulier vis-à-vis de leur clientèle, vis-à-vis du parc, et quelque part, ils jouent un peu le rôle de relais d'information du parc national auprès des touristes.
Et c'est dans ce cadre-là que vous leur proposez cette formation pour mieux connaître ce sujet-là des glaciers et pouvoir transmettre l'information derrière, j'imagine ?
Exactement. Chaque année, on leur propose entre 5 et 6 formations sur différents sujets. Et cette année, on s'est dit, voilà, les glaciers, c'est l'actualité, et donc proposons une journée... sur ce thème, dans un environnement de haute montagne, puisqu'on sera sur la commune du Monnetier-les-Bains, et ça nous semble être le cadre idéal.
Et pourquoi est-ce important pour vous au parc de sensibiliser le grand public, alors soit à travers ces personnes et ces acteurs du territoire, soit à travers les événements, donc, par exemple déjà au niveau des scolaires, ou encore, on va en parler juste après, donc, des événements grand public, sur cette thématique qui est une thématique... quand même de recherche scientifique, de niche, en quoi ça concerne le grand public?
Disons que les questions du changement climatique et des conséquences, on va dire, touchent de plus en plus la population, hein, que l'on habite sur le littoral ou à la montagne. Ça, c'est un premier constat. On est souvent sensibilisé par les experts du Groupement international d'études sur le climat, hein, qui est le GIEC. Ça paraît parfois un peu lointain quand on entend ça dans les médias, mais de plus en plus, même les élus, hein, s'approprient aussi les discours scientifiques et la réalité des faits. Et finalement, quand on est dans un massif comme celui du Parc national des Écrins, on est un peu en première ligne, malheureusement, des effets, hein, des conséquences du changement climatique. Et donc, on a une responsabilité à expliquer ce qui se passe et puis aussi, quelque part, à sensibiliser sur ce que l'on pourrait faire à la fois individuellement ou collectivement, pour aller vers une forme d'adaptation. Donc, pour un parc national, c'est indispensable. Et puis après, on a évidemment une mission forte de protection, hein, puisque la zone cœur de parc national fait l'objet d'une réglementation spécifique et on considère que on protège mieux ce que l'on connaît. Et donc, on incite le public à découvrir et quelque part à s'émerveiller. Et à travers ces émotions, à contribuer d'une certaine manière à la protection de la biodiversité et des glaciers.
Et donc justement, pour cela, vous proposez plusieurs événements. Est-ce que vous pouvez nous présenter, en tout cas ceux qui ont lieu sur notre territoire, puisque vous proposez des événements dans l'ensemble des vallées du parc des Écrins, mais ce parc touche plusieurs autres territoires. Et donc nous, dans les Hautes-Alpes, que proposez-vous?
Oui, alors on a décidé, dans le cadre de notre programme d'animation, de proposer différents formats d'animation. Donc on a le format rencontre avec un garde qui se déroulera donc en juillet et août, par exemple à partir du Pré de Madame Carle, où on proposera des observations de la flore, la découverte de la géomorphologie, c'est-à-dire les paysages glaciaires avec les moraines, et puis des explications finalement sur le recul des glaciers dans le paysage en utilisant des photos prises à différentes époques. Donc ça, c'est des formats d'animation qui durent une petite heure et qui sont au fil de l'eau sur le terrain. On aura aussi des animations dans les maisons du parc. Donc on aura notamment une animation autour de la fresque du climat en montagne. Donc ça, c'est un outil d'animation qui permet, sur un format de 2 heures, au grand public de rentrer avec une approche ludique et créative sur les questions du changement climatique. Et là, on s'appuiera sur les glaciers. Donc ça aura lieu à la Maison du Parc National de Briançon, Voilà, les 22 juillet et les 5 août prochains. On aura aussi un format un peu plus académique et scientifique, puisque par exemple le 7 octobre, à la Maison du Parc de Châteauroux-les-Alpes, on proposera une conférence sur la cryosphère alpine par Xavier Boudin, qui est un chercheur. Voilà, donc ça, ce sera aussi dans le cadre de la fête de la science. Et puis on parlera du coup des sols gelés et des glaciers rocheux. On essaiera de révéler un peu les mystères de ces deux écosystèmes, on va dire, glaciaires. Et puis on aura aussi notre expert maison, Julien Charron, qui interviendra tout à l'heure, qui proposera une conférence toujours à Châteauroux-les-Alpes le 12 novembre pour présenter 25 ans de suivi du glacier blanc, puisque ça fait 25 ans que ce glacier est suivi par le parc national. Il expliquera un peu toutes les techniques, les protocoles, les appareils, les outils qu'on utilise, qui nous permettent justement d'avoir un suivi un peu fin de ce qui se passe sur le terrain au niveau du glacier blanc. Et puis, ce qu'on peut citer aussi, c'est la présentation d'une nouvelle exposition sur les glaciers qui aura lieu au Centre d'information du Parc national au Cassé, sur la commune du Monnetier-les-Bains. Donc, on présentera une exposition du 16 juin jusqu'à mi-septembre. Et là, ce sera une exposition photo avec des grands panoramiques et quelques photos un peu zoomées. Et on profitera de ces photos pour faire passer quelques messages sur voilà, l'évolution des glaciers dans le paysage, sur la biodiversité qu'on peut y trouver, sur les activités, sur le lien des villages des écrins aussi aux glaciers et différents autres sujets.
Très bien, eh bien merci Pierrick Navizé. Donc vous avez toute votre programmation sur le site du Parc des Écrins, donc c'est écrins-parcnational.fr. Et il y a peut-être d'autres moyens de suivre, d'avoir toutes ces informations, ou c'est principalement sur votre site internet?
Oui, c'est relié sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et puis ce que je peux vous dire, c'est n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à venir à la rencontre des agents du parc et de nos partenaires scientifiques.
Eh bien, merci. Et on retrouve tout de suite donc votre collègue Julien Charron, dont vous parliez, qui est chargé de mission glacier et activités de pleine nature au Parc national des Écrins, également guide de montagne. Et ça, ce sera juste après la pause musicale. Et on vous laisse filer, Pierrick Navizé. Merci encore.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Bienvenue au magazine régional Sud-Est de Fréquence Mistral.
Et dans le magazine du midi aujourd'hui, dédié aux glaciers et surtout à la protection des glaciers, nous avons été rejoints par Julien Charron, dont nous parlions tout à l'heure, chargé de mission glaciers et activités de pleine nature au Parc national des Écrins et également guide de haute montagne. Bonjour Julien Charron.
Bonjour.
Vous nous entendez bien ?
Oui, je vous entends très très bien. Bonjour à toutes et tous.
Parfait, merci d'être avec nous. Et donc ensemble, nous allons parler maintenant de la situation des glaciers, de votre travail, aussi avec le Parc national des Écrins. Et pour commencer, donc cette situation, elle n'est pas très glorieuse, n'est-ce pas ?
Alors c'est vrai que ce qu'on constate donc dans les Écrins, mais aussi comme beaucoup d'autres glaciers en Europe en particulier, ils perdent beaucoup de masse et très rapidement. Et on constate aussi que la fonte des glaciers des Alpes européenne s'accélère. Voilà, c'est ce qu'on constate, entre autres, avec nos mesures.
D'accord. Et concrètement, sur le parc national des Écrins, il y a combien de glaciers ?
Donc, à l'heure actuelle, il y a environ 60 glaciers dans le parc national des Écrins, et il y en avait le double en 1950. Donc, on voit qu'on a déjà bien tapé dans le stock.
Et même en termes de superficie aussi, même ceux qui restent ont baissé, alors ?
Oui, c'est ça. La superficie, de la même manière, on avait une centaine de kilomètres carrés de surface englacée dans les années 70, enfin la création du parc national des Écrins, et là on est passé à une cinquantaine. Et en mètres cubes, donc en volume, un glaciologue m'avait indiqué qu'on avait perdu à peu près 2,4 milliards de mètres cubes de glace sur cette période, sur les 50 dernières années à peu près.
Donc vous disiez, un glaciologue vous l'a indiqué, parce que vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites, votre rôle en tant que chargé de mission ? Vous travaillez avec des glaciologues, mais pas que ?
Alors oui, en effet, moi, mon rôle au sein du Parc national des Écrins, c'est de m'assurer puis d'organiser le suivi des glaciers du Parc des Écrins, en particulier le glacier blanc, sur lequel on travaille le plus. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des glaciologues au Parc national des Écrins, donc on a besoin de leur expertise. Et c'est donc on travaille principalement avec le laboratoire de l'INRAE de Grenoble. Et on travaille, on fait aussi des missions de terrain avec eux. Donc c'est très enrichissant aussi pour nous de pouvoir bénéficier de tout leur savoir.
Et alors, que font-ils et que faites-vous avec eux concrètement pour qu'on se rende compte de ce qui se passe derrière toutes ces études dont on entend parler et qui permettent de voir au-delà que, par exemple, des photos, j'imagine que vous faites plein d'autres actions pour pouvoir voir l'évolution des glaciers.
Oui, alors on met le principal de notre travail, c'est de faire un suivi de bilan de masse annuel du glacier blanc. Et donc c'est un suivi qui nous prend, rien que pour les agents du parc, à peu près 80 journées agents. Et donc pour ce faire, par an, et pour ce faire, moi je pilote un groupe d'agents qui sont spécialisés donc sur la sécurité sur glacier, sauvetage, auto-sauvetage en crevasse. Et donc ils sont formés spécialement pour pouvoir aller faire les mesures sur le terrain. Et donc on travaille avec les glaciologues sur le terrain. Et concrètement, chaque année au mois de mai-juin, donc c'est vraiment maintenant, on va aller voir ce qui est tombé comme neige l'hiver précédent. Et puis, on va transformer ça en équivalent hauteur d'eau, parce qu'on sait que la neige, si c'est de la neige de névée ou de la neige de poudreuse, il n'y a pas du tout la même quantité d'eau par mètre cube. Et puis ensuite, on repasse en août jusqu'à début octobre pour regarder de quelle manière la neige qui est tombée l'hiver a fondu, mais aussi dans la partie basse du glacier, comment la glace a fondu. Et ça, on arrive à le mesurer en mettant des jalons donc dans la neige, dans la partie haute du glacier, et dans la glace, dans la partie basse. Et là, on va regarder ce que le glacier a perdu comme masse. Et ensuite, on fait la différence entre ce qu'il avait pris comme neige l'hiver précédent et ce qu'il a perdu l'été qui suit. Et donc, chaque année, on est capable de dire si le glacier y prend de la masse ou s'il en perd. Donc, on est capable de dire ça pour le glacier blanc. Et c'est vrai que c'est un travail qu'on ne peut pas faire sur d'autres glaciers parce que ça nous prend beaucoup de temps. Et les glaciologues avec qui on travaille, ils sont aussi impliqués sur d'autres glaciers. Et comme les mesures se font au même moment pour tous les glaciers, voilà, on ne peut pas être partout malheureusement.
Et par contre, vous estimez que les mesures que vous faites sur un glacier vous donnent une estimation de ce qui se passe sur d'autres glaciers ?
Alors les glaciers, ils sont quand même tous très différents, hein, que ce soit par exemple l'orientation de leur bassin versant, la taille de leur bassin versant, est-ce qu'ils ont des montagnes par exemple qui vont faire de l'ombre à la glace ou au contraire est-ce qu'ils vont être en plein soleil. Et donc c'est compliqué d'ensuite pouvoir extrapoler à d'autres glaciers. Par contre ce qu'on peut faire, ce que font les glaciologues, c'est qu'ils comparent la méthode de terrain, qui est donc une méthode, on l'a vu, qui prend beaucoup de temps, avec une méthode qui est faite par des photos aériennes qui sont prises par avion, donc qui volent très haut. Et là, les glaciologues font un bilan de masse tous les 5 ans sur le glacier blanc. Et en fait, ils comparent la méthode de terrain à la méthode avec les photos aériennes. Et si les deux méthodes donnent à peu près les mêmes résultats, c'est que ils peuvent reproduire donc la méthode aérienne ailleurs, puisqu'ils savent qu'il y a une certaine fiabilité. Donc c'est aussi ça l'intérêt de faire des mesures de terrain, c'est de les comparer à d'autres méthodes qui sont moins gourmandes en temps, en fait. Et donc, ce qu'on peut reproduire, finalement, c'est les méthodes de ce qu'on appelle modèle numérique de terrain, donc ce qui est fait par avion.
Et vous avez déjà des retours là-dessus pour l'instant, une tendance entre ces comparaisons?
Alors, c'est des campagnes photographiques qui sont faites tous les 5 ans par les glaciologues. Et pour l'instant, oui, les résultats sont bons. Donc, on pense que les deux méthodes, donc la méthode de terrain et la méthode de prise de vue par avion, sont très proches. Donc, pour l'instant, tout va bien. Mais c'est quelque chose qui continue. Et c'est vrai que le bilan de masse annuel qu'on fait sur le terrain est beaucoup plus fin, puisqu'on est capable de savoir qu'est-ce que c'est qui fait que le glacier perd de la masse. Est-ce que c'est qu'il y a moins de précipitations? Est-ce que c'est qu'il fait plus chaud? Enfin, voilà. Tandis que la méthode par avion, vu que c'est un passage tous les 5 ans, est beaucoup moins fine quant à essayer de trouver quels sont les maillons faibles des glaciers, quoi.
Et alors, quels sont les maillons faibles que vous observez?
Alors, d'après les glaciologues, le maillon faible, c'est surtout en fait les étés qui sont plus chauds et aussi plus longs. Ce qui fait que les glaciers perdent vraiment beaucoup de masse donc très tôt. Et puis, on a des étés qui se prolongent des fois jusqu'à fin septembre. En septembre, la glace fond encore très, très vite. Et c'est pas en fait un manque de précipitation. Donc, ce que nous disent les glaciologues, c'est qu'au niveau des précipitations en altitude, en tout cas, c'est toujours de la neige qui tombe en altitude. Et les précipitations n'ont pas changé par rapport à il y a 50 ans. Mais voilà, le maillon faible, ce serait plutôt les étés très chauds, avec aussi d'ailleurs des journées qui sont plus chaudes et même des nuits. Hein, on sait qu'il y a 3000 maintenant, on a des nuits où il ne gèle pas. Donc, ça veut dire qu'au cœur de l'été, le glacier, ils font 24 heures sur 24 à 3000 mètres d'altitude.
Oui, puisqu'on parle d'une évolution du glacier, mais quel est le glacier de comparaison, de départ, un glacier en bonne forme, comme on pourrait dire?
Alors, pour ce qui concerne le glacier blanc, on a commencé les études en l'an 2000, donc notre point de départ, on va dire, entre guillemets, c'est en l'an 2000. Après, les glaciologues, ils sont capables de dater des moraines, donc ils peuvent dire, la moraine, c'est les cailloux qui ont été poussés par les glaciers, et dont on retrouve les traces dans le paysage, donc ils peuvent dire, cette moraine, elle a tel âge, donc ça veut dire qu'à telle époque, le glacier venait jusqu'à tel endroit. Et puis, on a aussi des anciennes photographies des années 1800, qui sont aussi des très bons témoignages, puisque ce qu'on appelle les constats photos, ça peut aussi nous permettre de voir la différence entre l'époque des premières photos et puis ce qu'on peut faire actuellement. Si on reprend le même point de vue et la même focale, on peut aussi faire des comparaisons par photo.
Et les années 2000, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets. Et vous savez qu'il y a déjà eu des moments quand même, sans mettre en cause évidemment le changement climatique, mais des moments de fonte ou de grossissement des glaciers pour certaines raisons climatiques?
Alors donc nous, ce qu'on a mesuré sur le glacier blanc, c'est que sur cette période, donc le bilan de masse annuel dont on parlait tout à l'heure, ils ont commencé en an 2000 sur le glacier blanc et depuis, donc on les fait tous les ans. Et depuis, on a eu seulement 4 années où le glacier a pris de la masse. Mais il y a quand même eu 4 années où il a pris de la masse. Mais c'est très peu, en fait. Hein. C'était très peu de masse qu'il a pris. Et toutes les autres années étaient déficitaires, donc avec des bilans négatifs. Et puisqu'on a remarqué, quand on fait une courbe où on ajoute chaque année la perte de masse, c'est que donc la fonte s'accélère. Entre la période, par exemple, de l'an 2000 à l'an 2010, et puis si on prend une période plus récente, la fonte s'est beaucoup accélérée.
Donc ça, c'est quelque chose que vous observez vraiment sur ce terrain. Et est-ce que vous comparez vos données? J'imagine que oui, mais comment vous les comparez dans ce cas-là avec d'autres territoires de montagne, d'autres scientifiques ou d'autres parcs?
Alors, il faut savoir que le glacier blanc, il fait partie d'un observatoire de glaciers qui s'appelle Glacioclim. Donc ça, c'est un observatoire français. Et il y a 5 autres glaciers qui sont dans ce protocole Glacioclim. Donc ce qui permet de comparer les glaciers entre eux, c'est déjà de faire exactement les mêmes types de mesures pour pouvoir comparer. Et donc le glacier blanc, c'est le glacier de cet observatoire qui est le plus au sud des Alpes françaises. Et ensuite, il y en a 4 autres qui sont donc en Savoie et en Haute-Savoie. Et donc là, vu qu'on fait le même protocole, on peut les comparer. Et ce que nous disent les scientifiques sur cet observatoire Glacioclim pour la France, en tout cas, c'est qu'ils ont tous la même tendance, même si c'est des fois un petit peu variable. Mais ils ont tous une tendance à perdre de la masse de plus en plus rapidement et fortement.
Et est-ce que, aux mêmes années, est-ce que les conditions vont se retrouver d'une année à l'autre? L'année où le glacier blanc a pris de la masse, ça correspond à la même chose sur un autre territoire et inversement?
Oui, globalement, oui. Oui. C'est ce qu'on remarque globalement, oui. Après, il y a des petites variables, hein, puisque, comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas forcément les mêmes orientations, les mêmes expositions au soleil, par exemple, ou les mêmes pentes aussi, ça joue pas mal. Mais globalement, oui, c'est un peu tous la même tendance. Hein. Il faut savoir donc les ce protocole glacioclime est aussi utilisé à l'échelle internationale. Et donc, tous les glaciers du monde, il y a pas mal de glaciers dans le monde qui suivent ce protocole. Et toutes les données sont centralisées à Zurich, dans un organisme qui s'appelle le World Glacier Monitoring Service. Et donc, là, des scientifiques peuvent aller chercher les données d'autres glaciers et comparer les glaciers du monde entier. Oui.
Donc c'est une grosse enquête au niveau mondial, alors. Et à partir...
Et oui, juste pour dire aussi que donc maintenant, les scientifiques s'appuient aussi sur des images satellites. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, donc en lien avec l'Agence spatiale européenne et les glaciologues, et ils ont pu montrer que depuis 2000, les glaciers d'Europe avaient perdu quasiment 40% de leur masse, donc sur les 25 dernières années. Et donc voilà, ils utilisent maintenant aussi ces outils satellites et les images satellites pour faire des calculs à grande échelle.
Parce qu'au-delà de cette réduction, de ce bilan de masse donc, qui voit cette réduction des glaciers, quelles sont les conséquences de la fonte des glaciers ?
Alors, les conséquences, il y en a à plusieurs niveaux. Il y a tout simplement une perte de stock d'eau, puisqu'on sait que ce sont des réservoirs d'eau, les glaciers. Donc, plus ils sont petits, moins ils stockent de l'eau. Et puis, on est dans une période où ils relâchent beaucoup d'eau. Donc, on est plutôt, on va dire, dans une crue de fonte glaciaire en ce moment. Mais au bout d'un moment, ça va forcément baisser. Et ça risque de changer le régime hydrique des rivières. On a d'habitude un étiage hivernal qu'on n'aura peut-être plus. Et puis, on aura moins de soutien des cours d'eau par la fonte des glaces en été. Donc ça, c'est peut-être une première conséquence. Après, on a aussi des risques naturels qui sont en hausse. Donc c'est par exemple des vidanges de lacs glaciaires brutales, hein, puisqu'on sait que quand les glaciers fondent, à certains endroits, ça fait des lacs, mais qui sont avec des berges qui sont plus ou moins solides. Donc ils peuvent lâcher d'un coup et donc faire des événements dramatiques. On a aussi les glaciers, quand ils sont dans des parois, en fait, ils tiennent les berges par leur présence. Donc, quand ils fondent, les berges ne sont plus tenues. Donc, c'est sans doute ce qui s'est passé, par exemple, à La Pilate, pour ceux qui connaissent, donc pas très loin de la Bérarde, où on a un refuge qui se coupe en deux. En fait, il est sur un rognon rocheux où avant, le glacier de La Pilate était présent. Et comme le glacier n'est plus là, les scientifiques pensent qu'il y a peut-être une décompression glaciaire, c'est-à-dire que ce socle rocheux sur lequel il y avait le refuge, il n'est plus tenu par le glacier. Et donc, il est en train de se couper. Et puis, on a aussi des glaciers froids, c'est-à-dire des glaciers qui sont collés à la roche parce que leur température entre la glace et la roche est négative. Donc là, ceux-là, ils ne bougent pas. Mais avec le réchauffement climatique, la glace se réchauffe. Et là, ils peuvent devenir des glaciers tempérés, comme le glacier blanc, par exemple, où le glacier glisse sur un film d'eau au contact de la roche, là, où la température est à peu près température de fusion. Et certains glaciers sont dans un endroit très raide, et s'ils se mettent à glisser d'un coup, ça peut avoir aussi des conséquences dramatiques. On pense par exemple à celui des Bossons en Haute-Savoie, là où donc il y a un hameau en dessous. Et les scientifiques là ont des sondes de température à travers tout le glacier, et ils constatent que la chaleur est en train de gagner le glacier, et que peut-être qu'à un moment, tout va glisser en bas. Donc ça, c'est un autre risque naturel.
Pas mal de risques. Il y a Henri, j'avais demandé sur la biodiversité, mais c'est peut-être cela que vous allez ajouter ou vous vouliez ajouter
oui,
un autre.
Voilà, alors c'est vrai que quand les glaciers disparaissent, ils laissent aussi apparaître de la terre où il n'y avait pas de vie, hein, puisqu'il y avait de la glace dessus, ou très peu en tout cas. Et c'est ce qu'on appelle les marges glaciaires. On sait par exemple que pour le parc des Écrins, on en parlait tout à l'heure, il y a 50 km² de terrain qui sont apparus parce que les glaciers se sont retirés. Et donc là, c'est des endroits où les scientifiques, donc les botanistes et les entomologistes, etc., étudient fortement parce qu'ils peuvent, comme ça, documenter comment la vie arrive à conquérir des lieux où il n'y avait pas de vie avant, ou très peu, hein, il y avait plutôt des micro-organismes. Donc ça, c'est aussi très intéressant à suivre. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est des endroits qu'il faut préserver, c'est-à-dire qu'il faut préserver les glaciers, mais aussi leur emprise, puisqu'on arrive à des écosystèmes qui n'ont jamais été touchés par l'homme, en fait, hein, puisqu'ils sont en train de se mettre en place et l'homme n'a pas encore eu le temps d'intervenir. Et puis, voilà, peut-être une dernière aussi conséquence qui est plus là pour l'alpinisme, hein, puisqu'on sait qu'on est aussi en train de perdre un patrimoine paysager. On parle des neiges éternelles. On sait que, par exemple, l'alpinisme est classé comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. C'est aussi un élément constitutif du caractère du parc national des Écrins. Et là, il y a des conditions de certaines courses sont en train de changer complètement.
Vous m'avez devancé, j'allais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a un impact sur votre autre travail qui est d'être guide de haute montagne et comment fait face à cela tout ce milieu professionnel de la haute montagne ?
Oui, on a plusieurs moyens de s'adapter. Hein. C'est un peu le cœur du métier de guide, de s'adapter à les conditions qu'on trouve. Et par exemple, on va décaler la saisonnalité de nos courses, des courses qu'on appelle de courses de neige, par exemple, qu'on pouvait faire avant tranquillement sans trop se poser de questions jusqu'à fin août. Maintenant, on les décale plutôt en saison, on fait plutôt en juin, juillet les courses de neige. Et en août, on va plutôt proposer du rocher à nos clients ou d'escalade ou des courses d'arêtes. Donc une des manières, c'est ça. Et puis une autre manière aussi, c'est des fois de rééquiper certains itinéraires, puisque quand on prend des voies anciennes qui démarraient sur le glacier, par exemple la Rébuffa au pavé, donc Gaston Rébuffa a ouvert sa voie, le départ où il était est maintenant 50 mètres au-dessus du départ actuel à cause de la fonte du glacier. Donc là, on a été obligé d'équiper une longueur en bas pour rejoindre le départ qui avait ouvert Gaston, par exemple. Donc ça, c'est une autre manière, c'est des fois de... Enfin, quand on peut, hein, on ne peut pas toujours, mais... d'aménager un petit peu les itinéraires quand ils ont été trop impactés par le réchauffement climatique. Ouais.
Et existe-t-il des itinéraires que vous ne pouvez déjà plus pratiquer ?
Alors ça dépend de la saison, mais donc il y a des. En général, on arrive toujours à tout faire, hein, mais des fois les saisons optimales, elles sont beaucoup plus courtes dans l'année. Donc si on rate le créneau, il faut attendre une année, quoi. Voilà. Et après, ça nous a aussi du coup ouvert les yeux et amené à réaliser des courses qu'on ne faisait plus du tout avant. Et donc là, c'est aussi une autre manière de pouvoir proposer des courses à nos clients, c'est de réouvrir les topos et de se dire, tiens, cet endroit, on n'y allait jamais, en fait, il y a quelque chose de très sympa à faire ici, quoi. Donc on peut aussi s'adapter de cette manière à proposer d'autres courses.
Et comment vous le vivez, vous qui êtes donc sur le terrain, tant dans votre travail avec le Parc National des Écrins que en tant que guide de haute montagne, comment vous vivez ce changement que vous voyez vous, à votre échelle humaine, de vie humaine ?
Oui, alors c'est vrai que pour moi, c'est, à titre personnel, moi, ça me travaille beaucoup parce que je trouve que ça va très, très vite. Et puis, j'ai aussi l'impression qu'au niveau politique, etc., les gens n'ont pas conscience, en tout cas nos dirigeants, de la vitesse à laquelle ça va et la vitesse à laquelle ça se dégrade. Donc moi, ça m'attriste. Hein. Mais c'est vrai que je vois, par exemple, que moi, j'ai commencé l'alpinisme dans les Écrins et dans les années 2000, le glacier blanc, il touchait le glacier de Serre-Soubéran qui est juste en face du refuge du glacier blanc. Et maintenant, ils sont très éloignés l'un de l'autre. Et puis, le glacier de Serre-Soubéran, bientôt, il n'y aura plus rien. Et voilà, je me suis un peu effaré par la vitesse à laquelle ça se dégrade, quoi. Et c'est vrai que je me dis, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire ? C'est sensibiliser les clients que j'ai en montagne. Et puis aussi, via des interviews comme on fait aujourd'hui, essayer de toucher plus de gens, quoi. Voilà. Et c'est vrai que nous, le réchauffement climatique en montagne... On l'a vraiment sous nos yeux de manière imparable.
Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, on parlait tout à l'heure des événements que le Parc National des Écrins propose pour le grand public, pour sensibiliser. Mais est-ce que vous estimez qu'il y a des gestes qui peuvent être faits par toutes et tous pour aider ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut tous, à chacun à notre niveau, essayer de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça passe par les déplacements, par l'alimentation, par même aussi par les banques. Il y a des banques qui ne sont pas du tout regardantes sur les prêts qu'elles accordent aux entreprises qui extraient des énergies fossiles. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à un niveau personnel, mais je pense que là, il faudrait passer la vitesse supérieure et que ce soit un engagement plutôt politique, quoi, et national. Et bon, pour l'instant, moi, je ne le vois pas trop venir. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font déjà plein d'efforts à leur niveau et c'est super.
Et en mot de la fin, est-ce qu'il y a un message, un mot que vous voudriez donner, comme vous pourriez donner lors de vos courses à vos clients, à des personnes citoyens, citoyennes, sur ce sujet des glaciers ?
Oui, ce que je pourrais leur dire, c'est venez en profiter dans les montagnes, bon, surtout pour les gens qui sont dans les vallées des Hautes-Alpes, etc. Les glaciers sont juste à côté et il faut venir, il faut les admirer. Et je pense que ce qui peut vraiment faire changer peut-être la mentalité, c'est plutôt d'avoir une approche sensible, c'est-à-dire de se rendre compte de la beauté des choses. Et quand on est confronté à la beauté, on a envie de la préserver. Et je pense que c'est ça qui va plus toucher les gens que finalement des séries de chiffres ou des graphiques. Voilà.
Merci Julien Charron. Donc, je le rappelle, vous êtes chargé de mission glacier et activités de pleine nature au Parc National des Écrins et guide de haute montagne. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous avons donc parlé des glaciers car 2025 est l'année internationale pour la protection des glaciers. Merci encore Julien Charron et bonne journée à vous.
Merci à vous.
Et Au revoir. Et quant à vous, auditeurs et auditrices, retrouvez Chris demain dans la matinale à 7h30 et évidemment votre magazine du midi à 12h10. On se quitte sur une musique d'Alain Souchon, Full Sentimental, qui parle de la société de consommation pour rester quand même dans la thématique.
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ayons-nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoire, car full sentimental. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Full sentimental, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Il se ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, né, pour des cons alors qu'on est. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Full sentimental, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Full sentimental, soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Full sentimental, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. faut voir comment.